Maintenant, on va passer à d'autres aspects, les aspects économiques, et nous allons céder la parole à mesdames Salomé Bellalou, Flavie Rapito, Lorraine Stiglitz. C'est à vous. Merci.
En attendant qu'elle s'installe, je voulais simplement vous faire passer le message d'amitié de madame Auger, qui n'a pas pu être là ce matin pour des raisons tout à fait légitimes. Elle le regrette et elle vous souhaite bonne chance.
Bonjour à tous. Lorraine, Flavie et moi allons désormais vous présenter la place de l'économie de la donnée dans la loi pour une république numérique. Il y a à peine 10 ans, les gouvernements ne se souciaient pas du numérique, négligeant son impact économique. La France, consciente des opportunités économiques qu'offre ce secteur, a décidé de se saisir de la question au travers de la loi pour une république numérique. Selon Axel Lemaire, secrétaire d'État au numérique, cette loi prépare le pays aux enjeux de la transition numérique et va permettre de développer l'économie de demain.
Nous allons donc envisager cette loi à travers un prisme économique et c'est pour cette raison que nous allons l'aborder dans un ordre différent de celui initialement prévu par le législateur. Les articles de la loi seront présents tout au long de notre PowerPoint pour marquer visuellement. Et nous allons revenir sur des principes qui seront plus tard traités juridiquement par nos collègues. Aux prémices de notre réflexion, il nous est apparu primordial de s'intéresser à la demande qui émane des citoyens. Ce sont les citoyens qui sont concernés par la croissance économique qui est portée par le numérique. Ainsi, la loi souhaite garantir l'égalité d'accès au numérique à tous.
Plus de données, notamment publiques, transiteront ainsi par ces réseaux mis en place. Et par cette loi, l'État impose l'ouverture et la circulation de ces données.
Évidemment, les acteurs privés sont également concernés par cette révolution numérique. La loi a donc décidé de protéger les droits des citoyens afin de garantir la confiance dans cette nouvelle économie à long terme.
Nous le savons, nous sommes des consommateurs intensifs d'Internet. Plus de la moitié de la population mondiale utilise Internet. Le taux de pénétration d'Internet en Europe de l'Ouest est de l'ordre de 84%. Et 76% des internautes français déclarent utiliser Internet tous les jours. C'est parce que notre société dépend à ce point du numérique que la loi est intervenue afin de garantir un égal accès, notamment avec une mesure socio-économique qui est le maintien de la connexion à Internet. En effet, 2 Français sur 3 déclarent se sentir intégrés car ils ont la possibilité de se connecter. Cela permet par exemple de faire ses démarches administratives ou encore également des recherches d'emploi. C'est pourquoi cet article donne la possibilité aux collectivités territoriales par le biais d'une aide financière spécifique et d'aider financièrement les familles les plus démunies et dont le coût pèse sur les différents acteurs économiques. Tous les citoyens sont en proie à cette révolution numérique, ce qui change profondément nos modes de consommation. L'accès au numérique est donc essentiel. C'est une mesure qui permet de garantir l'égalité d'accès. Mais encore faut-il que les canaux soient performants. Or, en France, on observe une confrontation entre des zones denses et les zones rurales, c'est-à-dire qu'on voit des inégalités de débit, donc des inégalités territoriales. La loi est donc intervenue pour assurer un accès effectif au numérique. Pour améliorer la couverture du numérique, les schémas directeurs territoriaux d'aménagement du territoire ont été dotés de plus de compétences et vont donc pouvoir mettre en place une stratégie concertée, toujours dans le but de réduire les inégalités de débit. Nous le savons, un des premiers critères qu'une entreprise observe avant de s'implanter territorialement, c'est la qualité des communications électroniques. En effet, le débit joue un rôle essentiel dans cette implantation, car un meilleur débit égale des gains de productivité. En effet, cela va faciliter les échanges de fichiers lourds ou encore les salariés vont gagner en productivité. Il n'y aura plus de problème de lenteur ni de déconnexion. Les données collectées auprès des clients seront plus rapidement traitées, donc plus rapidement transmises au service marketing. Enfin, les stockages des documents sera grandement facilité. L'amélioration de la couverture numérique a des conséquences bien sûr économiques, car le déploiement de ces infrastructures est aussi un chantier créateur d'emplois. 50% de la fibre optique qui est déployée en Europe est produite en France, selon les chiffres du gouvernement. La technologie la plus performante sur le marché à l'heure actuelle est la fibre optique. Donc c'est une technologie aussi fine qu'un cheveu et qui permet de transmettre et de recevoir des données à la vitesse de la lumière. Donc la loi est donc intervenue afin de faciliter ce droit à la fibre. Ainsi, un propriétaire ou un locataire peut demander le raccordement à la fibre optique sans demander l'autorisation de sa copropriété. Aujourd'hui, nous le savons, les besoins en Internet augmentent et cela a pour conséquence d'amplifier la demande. Un consommateur est donc prêt à payer plus cher un service qu'il sait tout simplement meilleur. Et donc, cela joue sur la concurrence des opérateurs de télécom. Une dernière mesure va être abordée ici, c'est la mise en open data des cartes numériques de couverture. Et donc, cette mise en open data permet d'accroître la transparence pour les consommateurs et garantir les conditions d'une saine concurrence. Et cette mise en open data participe à la circulation des documents que Lorraine va maintenant aborder.
Au travers de ces canaux qui tendent à devenir de plus en plus puissants, on peut faire passer de plus en plus de données et le gouvernement a voulu profiter de ces moyens techniques pour ouvrir et augmenter la circulation des données publiques. Nous allons nous concentrer sur l'ouverture de l'accès aux données publiques que nous allons décomposer en deux points et nous nous pencherons ensuite sur les données d'intérêt général. L'instauration d'une obligation de gratuité des données par la loi va permettre de fluidifier les relations entre les administrations. 20 millions d'euros, c'est ce qu'ont représenté les échanges de données en 2014 entre les administrations. En soi, dans le budget de l'État, ce n'est pas énorme, mais ça a suffi à avoir des effets pervers sur les activités des administrations, puisque les procédures d'acquisition de données étaient onéreuses, compliquées, ce qui retardait l'acquisition de données, et les administrations avaient recours à des voies de contournement pour obtenir de la donnée gratuitement. Cette obligation de données de gratuité des échanges va avoir pour effet de réduire les coûts administratifs liés à la négociation des conditions des échanges de données. Or, si la procédure d'accès à ces données est simplifiée et que les négociations préalables sont amenées à disparaître, cela va permettre aux administrations de perdre moins de temps et d'être plus efficientes. Par ailleurs, les administrations seront plus amenées à réaliser des projets communs et à coopérer, ainsi plus de gains de productivité budgétaires et socio-économiques seront réalisés. Par ailleurs, grâce à l'open data, les relations entre les administrations et les administrés seront apaisées, puisque jusqu'alors, les administrés n'avaient accès à certains documents que s'ils en faisaient la demande. Désormais, les usagers vont avoir accès aux documents administratifs communicables plus facilement puisqu'ils seront mis en ligne par les administrations sous un format exploitable. Cette politique d'ouverture des données publiques aux administrés va permettre d'alléger les démarches administratives et encourager les citoyens à développer de nouvelles activités économiques et à créer des entreprises. Ces entreprises développeront elles-mêmes de nouveaux produits et services à forte valeur ajoutée. À terme, une augmentation de la croissance économique pourrait être visible. Par exemple, le site internet vroomvroom.fr est un comparateur d'auto-école qui indique aux usagers le taux de réussite des auto-écoles, par exemple, et il s'inscrit dans cette logique d'économie circulaire où la donnée agrégée à d'autres va permettre de produire de la valeur. Par ailleurs, cette mise en ligne aura pour effet de rendre les activités des administrations plus transparentes, ce qui va permettre d'augmenter la confiance des administrés et de lutter contre la corruption. C'est alors la même suite logique qui s'ensuit, à terme, une augmentation de la croissance économique. Par exemple, en 2010, 32 milliards d'euros ont été générés au sein de l'Union européenne grâce à l'ouverture des données publiques. Enfin, une plus grande coopération entre les acteurs privés et publics devrait émerger grâce à cet open data et des données de meilleure qualité seront produites. L'efficacité des activités des administrations en sera rehaussée, ce qui générera des économies d'échelle. Par exemple, le portail interministériel datagouv.fr permet de partager, d'améliorer, d'utiliser les données publiques dans une logique d'offre des données et non plus de demande. Mais le problème est que produire de la donnée coûte de l'argent aux administrations et que cette ouverture risque de les appauvrir si le gouvernement ne propose pas de modèle économique adapté. Par ailleurs, la loi crée la notion de données d'intérêt général, qui concerne essentiellement les statistiques sur les données publiques réalisées par les personnes publiques, mais aussi les statistiques qui sont établies à partir des bases de données des personnes privées. Ce big data permet d'accéder à de nouvelles formes d'intelligence et de produire plus de connaissances. Dès lors, les études sont réalisées dans l'intérêt de tous, personnes publiques comme personnes privées. Par exemple, grâce à ces données privées, l'INSEE peut calculer le taux d'inflation et ainsi indiquer aux acteurs économiques la santé de l'économie. Analyser ces données permet donc de mieux les comprendre, de les exploiter plus efficacement et de réaliser plus d'économies. D'autres bénéfices sont attendus, tels que la création et le développement de nouveaux produits et services, et ces statistiques publiques devraient permettre aux pouvoirs publics et aux acteurs privés d'améliorer leur prise de décision. Or, l'ouverture de ces données concerne forcément les particuliers qui sont pris dans cet engrenage.
Bien sûr, les données publiques ne sont pas les seules à transiter par ces réseaux et par cette loi, le gouvernement a donc démontré sa volonté de protéger les droits des citoyens. Nous nous concentrerons sur les trois points aux plus forts impacts économiques qui sont la neutralité du net, la portabilité des données et la protection des données personnelles. En ce qui concerne la neutralité du net, elle est essentielle à la confiance dans l'écosystème numérique, à l'innovation, et elle a été également essentielle à l'efficience du marché puisqu'elle permet de mettre fin à un vif débat entre opérateurs de télécommunications et fournisseurs de contenu. On le sait, les fournisseurs de contenu sont de plus en plus gourmands de bandes passantes et les opérateurs de télécommunications sont donc obligés d'investir dans de nouvelles infrastructures et ils ne voient pas pourquoi ils seraient les seuls à devoir investir et souhaitaient donc créer des flux prioritaires pour les fournisseurs, les clients qui paieraient plus cher. Le gouvernement n'a pas souhaité un tel schéma pour deux raisons. La première, c'est que les opérateurs de télécommunications sont de plus en plus eux-mêmes offreurs de services. Ils pourraient donc être tentés de privilégier leurs propres services. Et la deuxième, c'est que les nouveaux entrants, les petites entreprises, ne pourraient même pas entrer sur le marché. C'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction. L'un des enjeux de la neutralité du net est donc de maintenir une concurrence libre et non faussée sur le marché et éviter de décourager l'innovation. Toujours dans l'objectif de protéger les droits des citoyens et d'encourager l'innovation, cette loi a créé l'obligation pour les services en ligne de rendre aux utilisateurs leurs données d'usage, c'est ce qu'on appelle la portabilité des données. Cette disposition était essentielle puisque lorsque les utilisateurs se retrouvent prisonniers de leurs services numériques, cela porte atteinte à l'efficience du marché. Selon Olivier Mathiot, coprésident de France Digital, la portabilité des données est un tandem gagnant-gagnant. Elle permet à l'utilisateur de changer de fournisseur s'il le souhaite et en stimulant l'innovation et la concurrence, c'est une formidable opportunité pour les startups françaises de développer de nouveaux services. Dès le projet de loi, beaucoup d'acteurs de l'Internet se sont plaints des coûts que pourrait engendrer cette nouvelle mesure. Cependant, l'étude d'impact a répondu à leurs inquiétudes et les coûts devraient être limités. Enfin, ce qui nous a paru très intéressant dans la portabilité des données, c'est ce qu'on appelle le self-data. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ont bien compris les bénéfices qu'elles pourraient tirer de cette nouvelle mesure et se sont mis à créer des business models qui vont à l'inverse de la logique du big data et où, au contraire, on va rendre aux utilisateurs leurs données et c'est comme ça qu'on va créer de la valeur. Selon l'étude de la FING, donc la Fondation Internet Nouvelle Génération, les business models sont très différents et l'heure est encore à l'exploration pour ces startups, mais on pense qu'il y a vraiment moyen de créer de la valeur. Enfin, cette nouvelle obligation montre à quel point nous transmettons chaque jour un nombre colossal de données à nos fournisseurs de services. Et par cette loi, le gouvernement a souhaité anticiper le règlement européen sur la protection des données personnelles et inciter les utilisateurs à mieux gérer leurs données. On le sait, les données personnelles ont une très forte valeur économique. On a encore du mal à les quantifier, mais selon certaines méthodes de calcul, comme par exemple la valeur d'acquisition d'une société, on pourrait à peu près connaître la valeur des données personnelles. Par exemple, lorsque WhatsApp a été racheté par Facebook pour 22 milliards de dollars, alors que WhatsApp est un service gratuit, on estime que ce sont ces 600 millions d'utilisateurs qui ont été rachetés en réalité. Si on fait le calcul, ça fait à peu près 30 dollars par utilisateur. On comprend aisément que des entreprises mal intentionnées ou tout simplement trop négligentes pourraient se servir des données de leurs utilisateurs dans un but autre que la finalité initiale du traitement. Les égarer, se les échanger, les vendre dans des bourses de données. Il y a même des nouveaux métiers comme data brokers, qui consiste à vendre des données personnelles. Et si les Français s'inquiètent de plus en plus de l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles, eh bien on se rend compte que paradoxalement, ils sont prêts à fournir tous les jours leurs données personnelles, généralement en échange de meilleurs services ou de bons de réduction. Et donc le gouvernement a souhaité protéger ces citoyens qui ne penseraient pas forcément à le faire par eux-mêmes.
Ainsi, si trois points essentiels sont à retenir, c'est que l'amélioration de la couverture numérique doit se faire pour tous, l'open data s'inscrit dans une démarche d'innovation et de développement économique, et la confiance des citoyens dans l'écosystème numérique est essentielle à la pérennité de l'économie. Merci de votre attention. Merci.
Bien, merci beaucoup pour votre présentation qui nous rappelle à quel point l'économie et le droit sont très souvent complémentaires hein, et qu'il est nécessaire de les croiser assez régulièrement, si vous avez permis d'anticiper déjà sur un certain nombre de problèmes juridiques qui vont être traités par vos camarades. Hein, et on voit à travers votre intervention tout l'intérêt justement à l'ouverture des données, que représente l'ouverture des données pour les secteurs privés et publics, le self-data également, le fait qu'il va falloir articuler cette ouverture avec le respect des données personnelles, et remettre évidemment les individus au centre de leurs préoccupations hein, sur la gestion de leurs données. Hein, et notamment, je pensais aussi à ce que vous avez dit sur le rachat de WhatsApp par Facebook. Hein. On sait que l'année dernière, Facebook et WhatsApp ont souhaité partager les données de leurs utilisateurs respectifs hein, dans des conditions qui n'étaient pas très conformes au droit européen. Hein, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup.